Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Dis Charline, je me rends compte d'un truc par rapport à tous ces florilèges machin. Il y a jamais de bref dedans.
Bah oui.
Mais tu comptes répondre oui à tout
c'est... Non. Bon. Mais il y a pas de bref parce que on prend les meilleurs moments puis voilà. Tu vois.
Ça me fait hyper mal ce que tu dis là.
Oh ouais, Alex, c'est aussi pour créer le manque. Les gens vont attendre avec impatience celle de lundi.
Ah, tu vois, un vu comme ça. Ça ouais.
Bon allez, on choisit les deux invités.
Bon, okay, allez.
Moi, je voudrais faire une belle association.
On prend deux grosses stars.
Deux personnes très intéressantes qui changent le monde.
Faire un casting, un père pas lire Michel Drucker.
Des gens qu'on entend assez peu.
Et oui, parce qu'ils refusent toutes les autres émissions.
Donc je propose Ghislaine Tormoz et Pierre Saint-Garavelou.
Pardon
voilà. Ben, elle est syndicaliste chez PSA, parole forte, tu vois, et un historien de la mondialisation. Alors, c'est aussi ça notre émission, programmation de qualité.
Je dirais même une contre-programmation de qualité.
C'est ça, tu vois, là, aucun diktat du paysage médiatique ne nous impose rien.
Ça, voilà. Aucun. Mais alors, si demain, moi, je pouvais choisir les deux invités, ce serait normal.
Ouais, oui, tu sais, moi, tant qu'il n'y a pas de brève, tout me va. Hein. Bonjour la France Inter, l'Open Space vous ouvre ses portes. Ah mince, c'est vrai, il n'y a pas de porte. Mais il y a des invités. Eh oui, elle aussi, dans un sens, elle travaille en open space. Ghislaine Tormoz est syndicaliste, ouvrière à l'usine PSA de Poissy. C'est l'une des rares femmes du site, donc on lui a demandé si les travailleuses étaient confrontées au harcèlement sexuel. On accueillera ensuite un historien, Pierre Saint-Garavelou. Avec lui, on parlera de tous ces aspects du 19e siècle qui continuent d'infuser aujourd'hui dans notre quotidien. Lui, il en infuse de la toute bonne, bien sûr. C'est Alex Vizorek, bonjour.
Bonjour, Charline Vanhoenacker. Laissez-moi vous présenter les chroniqueurs et chroniqueuses du jour. Rukyata Ouedraogo viendra nous parler des voitures françaises au Burkina Faso. Tout un programme. Juliette Arnaud nous parlera du livre de Pierre Saint-Garavelou, L'histoire du monde au 19e siècle. Guillaume Meurice était, lui, allé à la soirée de lancement des jeunes avec Laurent Wauquiez.
Oh.
Et vous savez quoi, eux, ils étaient au courant qu'ils étaient écoutés. Et on terminera avec Frédéric Fromet qui nous chantera Emmanuel Macron, le président des ruches.
Youpi. Allez, comme on dit souvent, allons-y casquette.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue chez nous, Ghislaine Tormoz.
Merci.
Alors, vous travaillez actuellement donc à l'usine de Poissy. Vous avez pris une RTT pour venir nous voir et faire l'émission ?
Non, je me suis levée à 4h moins le quart ce matin. J'ai fait ma journée et je suis là ce soir.
D'accord. Donc, il y a possibilité d'embrayer plus tôt et de partir plus tôt aussi.
Non, j'ai fait ma journée.
Ah, c'est votre journée normale. Ouais. D'accord, très bien.
5h30 à l'embauche et 13h départ de l'usine.
Quotidien.
Enfin... En équipe.
Alors Ghislaine, vous êtes donc monitrice au ferrage sur la chaîne, ça c'est comme ça qu'on dit. Alors moi j'ignore ce que c'est. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous faites tous les jours à partir de très tôt
le
matin.
Passionnant.
Expliquez-nous ce que vous faites.
On a trois bâtiments en fait, ça se décompose en trois bâtiments. Il y a le ferrage, la peinture, le montage.
Ouais.
Donc moi je suis le premier bâtiment en fait de construction du véhicule. C'est la partie squelettique en fait du véhicule où il y a le plus de tôlerie, de visserie. Donc c'est plus essentiellement des hommes qui sont à l'intérieur. Donc voilà, moi je fais ça. En ce moment je suis sur une chaîne qui fait tout ce qui est élément finition, c'est-à-dire je mets les portes, on pose les portes, les capots, les volets. C'est passionnant.
On et arrive à les aimer ces voitures qu'on fabrique.
Ah je les adore.
Ouais.
Ouais, non.
Non, c'est... non, je ne sais pas, je vous pose la question.
Non, du tout.
Vous prenez les transports en commun?
Non, j'y vais avec ma Peugeot.
Ah bah voilà.
Oui.
Le Fordisme.
J'ai mis 20 ans quand même à acheter une Peugeot, mais bon.
Ah, c'est vrai.
Oui, non, c'est vrai.
Alors
c'est
qu'on
vrai.
Peut avoir un Uber en 2 minutes.
Tout à fait, c'est je suis si entièrement simple. D'accord.
Ghislaine, depuis que le site PSA Aulnay a fermé, que vous êtes à Poissy, est-ce que vous viviez malgré tout depuis cet épisode avec au quotidien le stress d'une annonce et le stress que ça se finisse?
Oh non, le stress c'est terminé, il y a longtemps qu'il est passé avec moi.
Ouais.
Maintenant peut-être d'autres, oui. Ouais, très certainement. Oui. Vu la conjoncture actuelle dans les grandes entreprises, on sait très bien qu'ils peuvent nous balayer du jour au lendemain. Donc bon. Non, justement, moi maintenant le stress, comme il est passé et que je connais la lutte, maintenant j'enseigne à mes petits camarades la lutte.
Ah.
En cas de stress.
Et donc, voilà. Par exemple, quand vous discutez, ça donne quoi? Une certaine vigilance?
De leur dire faire attention, de ne pas tout écouter, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que là, c'est carrément au ras des pâquerettes, quoi. C'est devenu de l'esclavage moderne, hein, mmh. Où on en est.
Gélicène Tormoz, elle est avec nous. Vous tenez le coup, là, parce que vous avez, à quelle heure, rappelez-moi, vous avez...
4h moins le quart.
Ah ouais, 4h moins le quart,
On va vous donner du Red Bull, on va faire.
Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y a plus de jeunesse, tiens, ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes. Je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo. Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande. C'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, où ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Quand dans ma bande y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée, par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
Renaud, il est comme nous. Il dit « Je suis une bande de jeunes ». On est une bande de jeunes, on s'éclate. Ouais. Gislaine Tormoz est en notre compagnie, travailleuse à l'usine Peugeot de Poissy. Et on va aborder avec vous ce premier sujet, Gislaine. Le harcèlement sexuel a éclaté dans le milieu du cinéma hollywoodien, puis dans les médias, et notamment à Radio France, hein, qui aurait son Weinstein. Il est question du harcèlement sexuel en entreprise, mais on parle beaucoup moins du cas des usines et de leurs travailleuses. Elles aussi, elles rêvent sans doute d'inverser les rôles. D'ailleurs, ça donne quoi quand on inverse la donne dans le harcèlement sexuel? Prenons l'exemple de la médecine du travail, au hasard.
Écoute-moi bien, Tyson. J'ai attendu 3 heures entre un gamin qui se vidait de partout et un alcoolo qui me plottait. Alors tu vas m'inviter chez toi après ta garde, ou sinon je crie au viol.
Mais t'es complètement cinglé ou quoi?
Au viol!
Docteur, tout va bien?
Eh, vous inquiétez pas, je vais lui faire un petit peu de bouche à bouche. Hein.
Allez, maintenant, tu dégages.
Ah, t'as pu rigoler
Non, moi je bosse et tu m'intéresses pas, tu piges.
C'était Audrey Fleurot dans Les Reines du Ring, le film. Alors, avant de parler de harcèlement sexuel, Gislaine Tormoz, vous êtes arrivée à l'usine PSA d'Aulnay à l'époque. Vous étiez 3 femmes sur 1200 salariés,
c'est bien ça? Oui, dans le ferrage, il y avait 1200 hommes.
Et puis vous êtes devenue ce qu'on appelle donc monitrice au ferrage sur la chaîne. Et là, vous avez dirigé une équipe de 6 gars.
Oui, en fait, oui.
Ouais. Alors, ça se passe comment dans ces cas-là?
Au démarrage, quand je suis arrivée, en fait, moi, j'étais le grouillot de service qui donne à manger au robot. Donc, on lui donne des petites pièces, il les mange, et puis il nous fait des belles tutures. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'au démarrage, on a l'impression qu'on n'avait jamais sorti les mecs de l'usine, quoi. Ils ont vu arriver des filles. Oh, j'ai dit, mais vous les sortez jamais, hein, de temps en temps, parce que là, c'était quand même les regards. Mais par contre, du côté ouvrier, c'est très rare qu'il y ait des gestes. C'est plutôt au niveau hiérarchique. C'est dès qu'il commence à monter les étagères qui servent à rien là-haut. En fait, c'est celle-là qui vous emmerde le plus, quoi.
Quand il commence à y avoir de la moquette.
Quand des termes grivois ou qui vous mettent la main sur l'épaule ou qui vous assoient sur leurs genoux.
Voilà, alors, il y a aussi, je me suis un petit peu renseignée, dites-moi si je me trompe ou pas, il y a déjà tout bêtement une question de toilette pour femmes, non ?
Oui.
Quand on arrive dans une usine où il y a 1200 mecs, on est trois nanas, vous dites, alors, attendez, où est-ce qu'on fait pipi, quoi, grosso modo ?
On a des toilettes, alors ils sont très petits, parce qu'évidemment, on n'est pas nombreuses. Donc, le problème, c'est que les portes sont ouvertes à tout vent. En fait, on n'a pas de clé, on n'a pas de code. Quoique là, à Poissy, ils commencent à mettre des clés. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui va rentrer. Alors, oh, excuse.
Ouais.
Je me rendais.
Donc, c'est-à-dire que
je suis pas aperçu, dis donc. Il y a une grosse bonne femme dessinée sur la porte, mais le gars, j'ai dit où t'es myope. Alors là, sort de l'usine, quoi.
Non, mais ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'il n'enregistre même pas que nous, les femmes, pour aller aux toilettes, on doit baisser le pantalon de travail.
Tout à fait.
Ou la jupe, ou je sais pas, quel que soit le boulot. Mais c'est-à-dire, c'est ça, il n'avait pas intégré qu'on baisse le pantalon, qu'éventuellement on a nos règles.
Alors,
je veux dire, le mec ouvre la porte, on change le tampax, qu'est-ce qu'on fait?
Non, parce qu'on lui met dans la vie.
Non, c'est pas sûr. C'est sujet-là.
Pas Gislaine, est-ce que.
On a un expert.
Pardon d'être cru, je sais que on a un expert en ragnout.
Je veux pas y aller.
Pardon d'être cru, Gislaine, mais ça, on peut pas se figurer si on. Voilà.
Ah oui, non. Là, en ce moment, je suis dans un toilette où il fait 2 degrés. Quand on leur explique que nous, par contre, voilà, justement, on doit baisser notre pantalon, il fait frisquer quand même. Hein.
Même pour nous, donc,
Oui, mais bon,
oui, oui.
Ça va vite arranger.
C'est toujours le cas actuellement.
Plus que nous.
C'est toujours le cas à l'usine à Poissy, vous avez vos chiottes.
C'est à 3 degrés.
Mais oui, oui.
Et voilà.
C'est sympathique.
Oui, c'est important de l'entendre.
De nous replonger dans la réalité.
C'est existentiel,
mais oui. Mais oui, mais c'est vrai.
C'est dur, hein.
Eh ben, Gislaine Tormeau, c'est avec nous. Je rappelle votre livre, Le salaire de la vie, coécrit avec Francine Raymond, aux éditions Don Quichotte. Et comme vous travaillez à l'usine Peugeot de Poissy, ça a inspiré Rukyata Ouédraogo.
Oui. Alors, quand Charline m'a dit qu'on recevait une syndicaliste de chez Peugeot, je me suis frotté les mains et j'ai tout de suite appelé mon oncle. « Tonton, tu auras une belle surprise à Noël. »« Ah bon, hein? J'aurai un nouveau dentier ?»« Ah non, tonton, mieux !»« Tu m'as trouvé une parisienne bien potelée ?»« Pas exactement. Figure-toi qu'aujourd'hui, on reçoit une syndicaliste de chez Peugeot. »« Ah, toi, tu es une petite maligne. Tu vas enfin pouvoir me ramener une Peugeot 403. »« Voilà, tonton. Enfin, on va essayer de voir si elle peut nous faire un bon prix ou même mieux, nous filer une Peugeot de seconde main. » C'est aujourd'hui à Ouaga, on roule dans des vieilles voitures qu'on appelle Au revoir la France. Vous connaissez ?
Oui.
Ce sont des vieilles bagnoles qu'on nous envoie de France quand elles ne peuvent plus passer le contrôle technique ici. Mais la première fois que j'ai vu une voiture de ma vie, c'était une vieille Peugeot 403 que mon grand-père avait achetée à un ex-colon sur le départ en 1960. Mon grand-père conduisait sa Peugeot fièrement et en plus, il était le seul à avoir ça dans le quartier. Tous les dimanches, il prenait toute la famille dans sa Peugeot et nous amenait au marché. Comme j'étais la plus petite, on me plaçait devant, entre mon père, ma mère, mes trois sœurs et frères et mes quatre sœurs. Mais bon, les autres frères et les cousins se mettaient sur la banquette arrière. Quant aux autres, ils s'asseyaient sur le toit ou s'accrochaient là où ils pouvaient. Ah, c'était la belle époque, Charline. Un jour, la voiture de mon grand-père est tombée en panne. Impossible de démarrer. Et elle est restée pendant quelques temps dans la cour. Et un jour, mon oncle est venu voir mon grand-père. Et il lui a dit, bonjour papa, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui me chagrine. La voiture là, on ne peut pas la laisser moisir comme ça. Il faut trouver le moyen de la réparer. Mon fils, j'ai tout fait, mais impossible de la faire rouler. Papa, laissez-moi faire. Je vais la démonter et on trouvera bien une solution. Mon fils, il y a un proverbe ici qui dit que si tu portes des choses trop lourdes pour tes épaules, tu auras du mal à t'en décharger facilement. Mon oncle lui a répondu, papa, un proverbe qui dit ici que si un éléphant avale une noix de coco, c'est qu'il connaît la force de son derrière. Alors sur ces sages paroles, mon oncle entreprit de démonter la 403 et au bout de 3 semaines, elle avait changé de forme, mais elle fonctionnait de nouveau. Comme on dit chez moi en Afrique, rien ne se perd, tout se répare, ce n'est qu'une question de temps. Et c'est ainsi que mon oncle devint taximan avec la Peugeot et toute la bénédiction de grand-papa. Enfin, quand je dis taxi, il ne faut pas imaginer ce que vous connaissez ici à Paris. Hein. Non, non, non. Ici, les voitures sont neuves et spacieuses. Elles sentent bon le déodorant et les fauteuils sont aussi moelleux que des chamallows. Non, chez nous, c'est autre chose. Je parle des vrais taxis avec trois roues, avec un trou au milieu du plancher pour freiner avec les pieds. Et à la place du réservoir, il y a une bouteille de gaz. Et parfois, même à la place du moteur, il y a quelqu'un qui pédale. Mon oncle a transformé la 403 de mon grand-père en ça. Sur la portière gauche qui tenait grâce à un fil de fer, il a collé un autocollant qui disait « Tais-toi jaloux, Jésus te voit ». Bon, malheureusement, la troisième roue est partie et mon oncle ne peut plus la conduire. Enfin, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, quand je suis venue m'installer en France, il m'a chargé de lui ramener une 403. Et ça fait 18 ans que je cherche, mais vraiment, je n'ai pas encore trouvé. Alors... Vous qui travaillez et qui êtes bien placé chez Peugeot, enfin, vous ne pourriez pas faire un petit truc, trouver une petite 403 pas trop chère, ou sinon même un cadeau, vraiment. Ça va beaucoup aider mon oncle, hein. Et puis moi ça va me soulager aussi. Et je voulais vous dire, hein, ne vous inquiétez pas, ça reste entre vous et moi. Il n'y a pas de souci.
Rukyata Ouedraogo. Nous sommes avec Ghislaine Tormoz jusqu'à 18h. On va profiter de votre présence avec ce dernier sujet pour se faire bien voir les salariés. Postent leur joie de vivre au bureau sur les réseaux sociaux, encouragés par leur management, qu'ils transforment les open space en studios de télé-réalité. Aujourd'hui, l'image de l'entreprise passe par le sourire de ses travailleurs jouant au baby-foot pendant la pause. C'est bien Chico des Gypsies.
Oui, exactement.
C'est lui,
exactement.
Hein, c'est
oui,
ça.
Oui, oui,
j'aime
oui.
ma boîte, j'aime
la journée,
ma boîte.
J'aime ma boîte.
C'est pas magique. Je vous vois à l'usine, Ghislaine, avec tous les camarades. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Oh là, je vous imagine. Alors, en 2017, l'espace de travail se doit d'être photogénique et inspirant.
Demain, je vous en reparlerai.
Envoyez-nous une vidéo.
Vous avez dû demander l'autorisation pour venir parce que c'est vrai, ça.
Ah non.
Ah non.
Non, non, non. Je suis grande personne maintenant.
Non, non, je ne sais pas. On ne sait jamais. Parce qu'on a fait une belle promo.
Si vous enlève les chaînes, de toute façon, de temps en temps, ils vous enlèvent les chaînes.
Ils nous enlèvent. Même peut-être maintenant, ils vont leur rajouter un boulet, là, je pense. Ça commence.
Ah, ils commencent à vous donner de plus en plus de boulot.
Oui.
Vous allez avoir moins le temps d'instagrammer.
Oh, on trouve toujours le temps.
Donc en 2017, l'espace de travail doit être photogénique et inspirant, hein, nous dit-on. Voilà, baby foot à l'entrée, fleurs dans la kitchenette, avec des citations au mur pour stimuler la créativité. Alors déjà, fleurs dans la kitchenette, à mon avis, ça doit vous faire marrer parce que vous, Ghislaine, vous n'avez pas le temps de bouffer en fait à l'usine.
Bah, non, nous c'est la crasse dans ce qu'ils appellent l'air UEP. C'est une salle où il y a des chaises pourries, des tables crado, un évier où on se laverait même pas les pieds.
Ah oui.
Ouais, nous c'est ça la fleurette ça, dans ouais. la
D'où le fait que ce soit pas trop présent sur les réseaux sociaux, la joie de vivre.
Oui, non, 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 ils évitent.
C'est un sujet qui vous fait marrer.
Et les voitures qu'on voit sourire en fait chez Peugeot.
Ah, oui.
Voilà, c'est pas les ouvriers.
C'est vrai, tout ce bonheur en entreprise, là, est-ce que c'est pas il y a un peu écœurant à un moment, vous avez un avis là-dessus? Ça vous a fait marrer ce sujet, je sais, quand on vous l'a proposé.
Oui, ça m'a fait marrer, ça m'a fait marrer.
Pourquoi?
Parce que je me mets à la place des pauvres mecs qui sont filmés en fait. Alors je sais pas, ils leur ont mis un fusil sur la tempe,
ils
leur ont promis.
Quand ils sourient en même temps, ils font les deux.
Ils leur ont promis une augmentation. Enfin, je sais pas, mais bon, moi ça me fait marrer, quoi.
Faut vraiment beaucoup aimer son entreprise pour.
Oui, ou en avoir très peur.
Ouais.
Ah, il y a deux solutions.
Pour ces gens-là, c'est parce qu'ils ont l'air, ça m'a l'air épanoui. D'être plutôt cette génération.
Ouais. Oui. Et reste à savoir si c'est vraiment les ouvriers, quoi.
Oui, alors.
Ou des employés.
Ah non, c'est voilà. Justement, j'imagine. Ouais.
Donc il y a un article paru sur slate.fr, publié plutôt. Et il y a, par exemple, une photo, il y a une entreprise qui dit, voilà, le site box pour un co-localme en visio.
Ah ben voilà, là on y est.
On y est, hein, voilà, avec une dame qui est dans une espèce de bulle avec son ordi et qui fait une espèce de ce qu'on appelle une conf call et elle a l'air tout à fait épanouie, hein, ça a l'air orgasmique. Hein,
elle est dans sa bulle.
France Inter ne devrait pas... Et en tant que syndicaliste, donc, si on vous demandait simplement de poser sur des photos pour montrer un peu à quoi ressemble votre travail, sourire, etc., ça serait débattu, ça, j'imagine. Non,
ce serait de leur demander si je peux positionner ma main différemment.
au niveau des doigts.
Au niveau de la photo. Ouais, voilà, des doigts.
Ouais, okay. C'est ça.
C'est, mais le sourire, je l'aurai toujours.
Mais ça leur fait de la com gratos, parce que c'est une autre manière de demander aux salariés de faire de la communication pour l'entreprise.
Exactement. Bien sûr.
Nous aussi, on est parfois contents de se prendre en photo avec le logo France Inter, donc on, à un moment, il faut être juste là-dedans. Oui, si la boîte parvient à vous faire avoir cette envie-là, c'est bien joué.
On est dans le rire et la parodie de tout ça. Donc,
j'entends bien, mais je veux dire, de temps en temps, il faut avoir l'autocritique. Et on a décidé c'est ça que je sers, évidemment, comme d'habitude. S'il fallait compter sur vous deux. Oh là là, Ghislaine, c'est pénible.
Ghislaine, vous êtes aussi comédienne à partir de maintenant.
Et oui, en fin d'émission, on propose un sketch. Alors attention, Star Wars version lutte des classes. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est pas piqué des nerfs. On y va, on s'y rend.
À nous deux, Dark Macron.
Pas si vite, Luc Martinez. La force est puissante en toi, je le sens.
Tes manipulations n'ont pas de prise sur moi, Dark Macron.
Libère les forces vives du marché. Rejoins le côté obscur de l'économie.
Jamais ! Plutôt crever de froid sur la planète Hauts-de-France.
Je te croyais plus malin, Luc Martinez. Le réel te rattrape.
C'est moi, là ?
Ouais.
C'est qui, lui ? Anne de... quoi ? De Morant ?
Princesse Leia, tu ne me reconnais pas.
Tu serais le Jeudi Noir ?
Le Jedi.
C'est toi, Serge Darkso ?
Non, d'autres me surnomment le grand exploiteur.
Oh mon Dieu, c'est le maléfique empereur Dark Gattaz.
Craignez mon libéralisme.
On ne vous laissera pas faire, tous les syndicalistes de la galaxie sont contre vous.
La planète CGT et la planète Sud.
Et la planète CFDT ?
Non, la planète CFDT, ils sont encore en réunion pour décider de la position à prendre.
Ouais, là on est tranquille pour quelques années-lumière, je pense.
Les bouffeurs de merguez dans l'espace, personne ne les entendra, vos gueulophones.
Allez, Luc Martinez, donne-nous la princesse Leia et tout se passera bien.
Jamais ! Et d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez ?
Cette gauchiste a fait fuiter les plans de l'ordonnance noire à Mediapart.
L'ordonnance noire ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Bon, c'est comme une ordonnance, mais sur des tons plus sombres, comme le noir.
Ouais, mais laissez tomber. Qu'est-ce que ça implique ?
C'est une ordonnance surpuissante, capable d'anéantir un code du travail en quelques secondes.
Quoi ? Mais c'est monstrueux ! Mais vous n'avez donc aucun scrupule !
Scrupule quoi ? Excuse-moi, ça, je connais pas le mot, ça.
Vous torchez le cul avec ?
Oui, c'est ça,
il est grand temps de disrupter la galaxie.
C'est pas comme ça qu'on vaincra le chômage.
Ah, mais vous, Dark Macron, vous êtes de quel côté de la force ?
Moi ?
Oui, vous.
Oui,
vous.
Oui, bah, moi, je suis ni du côté obscur, ni du côté des Jedi, donc je suis au-dessus des clivages.
Oui, alors laissez tomber. Ouais, c'est ouais, ça,
et en même temps, je dis en même temps...
Pour lutter contre les délocalisations vers la planète à bas coût, vous avez prévu quelque chose ?
Dark Gattaz, on a prévu ?
Ça est prévu pour les épisodes 31, 32 et 33.
Ah merde, on est bien emmerdé là.
Bah qu'est-ce que je fais du coup ?
Je veux une réponse !
Bon, bah démerdez-vous maintenant, dites-lui n'importe quoi là !
Bah n'importe quoi, Luc Martinez ! Je suis ton père.
Ah oui, bah ça c'est bien con ça, tiens.
C'est la mi-temps de la première moitié de l'émission.
Très bien.
Ça veut dire quoi que ?
Non. Oh non, non.
Bah si.
Mais pourquoi on le met dans les meilleurs moments, madame ? Il nous ennuie toute l'année, déjà.
Guillaume Meurice, ben oui, qu'est-ce
évidemment.
Qu'il a fait ?
Bon, allez, vous savez quoi ? On va le punir. On va l'envoyer voir des soutiens de Wauquiez et pas n'importe lesquels. C'était la soirée de lancement des jeunes avec Laurent Wauquiez.
Bah, vous avez encore raté une belle soirée hier. Oh là là là, je vous le dis, venez avec moi, vous voulez jamais venir. C'était la soirée de lancement des jeunes avec Wauquiez à Paris, au pub Saint-Michel. Putain, cette folie furieuse. On les déglingons, on a ri. Et à un moment donné, il y a Jenny qui a attaché le polo Lacoste de Jean-Eudes avec son rouge à lèvres guerlain. Du coup, il s'est vengé en lui planquant les clés de sa Golf Mini que son père lui a acheté pour son année. Fallait y être, voilà, vous avez pas l'image, mais c'était vraiment la folie. Enfin bref, vous pouvez pas comprendre, vous étiez pas là. En tout cas, j'ai passé une pure soirée, c'était génial. Et ça, j'ai vu dès que je suis arrivé. Hein, j'ai vu.
Regardez autour de vous.
Mais ça a l'air formidable.
Parce que ça a pas l'air formidable.
Mais c'est génial.
Parce qu'on a pas l'air tous bien, on s'entend tous bien, il y a une super lumière. Et il y a pas que des jeunes avec Wauquiez.
Wouh, c'était trop cool, génial. Et il y a pas que des jeunes avec Wauquiez. Elle l'a dit, c'est ça le délire. Il y avait qui hier aussi ?
Ce soir, vous avez les jeunes avec Calmels. Enfin, moi, j'en fais partie, on est des jeunes libéraux.
Ah, vous êtes les jeunes avec Calmels.
Ouais, voilà.
Ah oui, c'est très segmenté quand même.
Non, mais on vient porter le gage libéral à Wauquiez, donc c'est...
Et vous n'êtes pas les jeunes avec Calmels ?
Non, moi, je suis un peu moins libéral.
Il y a des débats entre... Je savais pas, ça, c'est passionnant.
Non, mais le débat, je pense que c'est important qu'ils vivent, et ça n'empêche pas de se retrouver sur les valeurs fondamentales.
Ah, ouais, mais c'est pas simple avec Calmels, parce qu'en ce qui concerne les valeurs fondamentales, elles changent tout le temps, donc... elle est souple, hein, Virginie, au niveau de la colonne vertébrale, comment vous dire ? Vous voyez un poulpe ? C'est à peu près l'équivalent, hein, elle peut faire de la GRS, elle serait championne. Mais bon, elle a le soutien, voilà, les jeunes avec Calmels, ils sont très nombreux, hein.
Combien vous êtes les jeunes avec Calmens?
Des milliers, si, mais au moins des milliers. Mais après,
au moins des milliers, les jeunes avec Calmens?
Au moins des milliers.
Bon, au moins, hein, c'est quand même rare de croiser un jeune qui vous parle pas de Virginie Calmens aujourd'hui. Hein. On sait que les posters s'arrachent, les concerts sont complets des mois à l'avance. À moins que ce jeune avec Calmens gonfle un petit peu les chiffres, hein, il aura un côté CGT, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Alors, je suis resté discuter avec lui sur la question donc de Laurent Wauquiez, parce que voilà, on se pose tous la question, est-ce que le rapprochement Wauquiez-FM FN ne le dérange pas?
Alors là-dessus, il a été très clair par ailleurs.
Mais pas trop justement.
Il a été très clair. Il faut prendre la question à rebours. En fait, il a un...
Prenons la question à rebours.
Il faut prendre la question à rebours dans la mesure où c'est pas parce qu'on tient un discours que le Front National peut tenir. Et certains points de son discours sont Front National compatibles. Là-dessus, il ne faut pas se mentir.
Est-ce que c'est pas un peu ce que je disais?
Non, c'est pas ce que vous disiez justement. Prenons un cas concret.
Voilà, on va plutôt prendre un cas concret parce qu'on a quand même bien l'impression que la seule chose qui différencie Le Pen et Wauquiez, c'est le brushing, hein, pour l'instant. Wauquiez, c'est poivre et sel, hein, comme tous les ringards. Et puis Le Pen, c'est blond comme une présentatrice de Par Jupiter. Alors, pour y voir plus clair, cas concret, l'immigration.
Quand on dit qu'il faut réduire l'immigration, est-ce que ça en fait un discours pour le Front National? C'est là que c'est la question.
Mais disons que vous êtes quand même pour des quotas là.
On est absolument pour des quotas.
Mais le Front National aussi, il est pour des quotas.
Oui, donc le Front National pense comme nous.
Ah bah voilà.
Donc c'est pas nous qui pensons comme eux, ce sont eux qui pensent comme nous.
Mais alors, ça veut dire que quand même, il y a un rapprochement.
Oui, mais écoutez, ça dépend de quel point de vue vous mettez. Si vous prenez Alstom et Siemens, est-ce que vous considérez que dès lors, où est-ce que les deux qui fabriquent des trains... qui se rapproche, c'est un problème.
Oui, alors, attention, parce que cette histoire de train et d'extrême droite, moi j'ai le point Godwin qui frétille. Alors bon, attention, je préfère qu'on quitte les domaines trop rebattus, voilà, de la thématique de Laurent Wauquiez, la sécurité, l'immigration. Ça, c'est un jeune avec Wauquiez qui me l'a suggéré.
Il faut parler d'éducation, avec notamment la réforme du baccalauréat.
Qu'est-ce qu'il propose Laurent Wauquiez pour la réforme du baccalauréat?
Personnellement, j'ai pas encore entendu sa position là-dessus.
Ah.
Mais dès qu'il sera élu, on espère qu'on travaille du fond en comble sur l'éducation.
Voilà, on va d'abord attendre qu'il soit élu, puis après on verra ce qu'il compte faire pour l'éducation, hein, que ce soit supprimer les chiffres arabes, le couscous à l'école. Enfin, on imagine qu'il y a quand même un très beau programme derrière.
La masturbation.
La masturbation, oui. La rendre obligatoire, non, l'interdire.
Oui, c'est au programme.
On verra ce qu'il nous réserve, Lolo, mais il y a des surprises, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est mon gars sûr, hein, Lolo. Moi, ce que j'aime avant tout chez lui, on va pas se mentir, c'est le terroir, c'est un mec du terroir. C'est vraiment un gars qui adore ça.
Il a une affinité pour la ruralité, en fait. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, en fait.
On l'imagine mal sur son tracteur, faire son champ, etc.
Bah, venez le voir.
Voilà, bah, je vais faire ça directement. Hein. Après, je veux pas trop non plus l'emmerder pendant qu'il a les deux pieds dans la terre. Hein. Parce que c'est vrai que le seul endroit, en tout cas, où je l'ai vu déverser du fumier, c'est vrai que ça concerne la campagne, mais la campagne électorale, pour l'instant.
Flip it on ya, raise the bar and they move it on ya. Take you off the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather you stare about if we organize, they can't get it. Siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. super rich know exactly what's wrong. They got the goodies in their bottom for a song. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on. Static politician bastards always trying to get at you, but I come hard like a ratchet, spit it on the head because I'm king of disaster. Laughing, get it at the last laugh. I'll be the one hard surfing cause I'm a silver surfer, great matter. Always get it all you suckers scatter when I come hard like mix it in the batter. Come on.
Chaos Embedded, c'était Arat Kilo avec Mamani Keita et Mike Ladd. Je sais que vous les aviez reconnus, mais je vous les donne dans l'ordre.
C'est mon trio préféré.
Deuxième mi-temps de cette émission qui pourrait s'intituler « Attention à la marche de l'histoire ». Et la marche s'appelle Pierre Saint-Garavelou, parce que j'ai eu un petit peu de mal à prononcer
son... Vous dites bien ce coup-ci.
Ah bah maintenant, je maîtrise. Hein. Oui, jugez plutôt.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Pierre Saint-Garavelou. Ça y est.
Allez.
Ah là là.
Appelez Pierre. Mais Pierre Saint-Garavelou. Mais bien sûr. Vous avez co-redirigé un fabuleux ouvrage qui s'appelle L'histoire du monde au 19e siècle avec Sylvain Vénère. C'est aux éditions Fayard. Et c'est un ouvrage qui résume le 19e siècle. C'est formidable. Là, par exemple, là, vous êtes à la radio, vous ne me voyez pas, mais imaginez, j'ai le 19e siècle dans mes mains. Ça me fait un truc.
Ça fait 2 kilos, 300 grammes.
C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous dites que le 19e siècle est un siècle qui ressemble étrangement au nôtre. C'est le siècle des migrations. Il résonne avec le retour du religieux, le nationalisme, le panafricanisme. Vous dites on redécouvre aujourd'hui des formes même de socialisme du 19e, longtemps dénoncées comme utopiques. Quand on lit votre ouvrage, on va découvrir comment le monde contemporain est né. C'est ça, c'est toute la genèse est là.
Oui, alors c'est ça. Alors les historiens, ils ont souvent tendance à souligner l'actualité de leur sujet. Alors si vous invitez un spécialiste de Ramsès II ou du lac de Paladru en l'an 1000, il va vous dire que c'est très actuel. Voilà. Alors là, il se trouve que c'est plutôt vrai. Parce que le 19e, c'est une espèce de matrice, comme vous l'avez dit, de la modernité, aussi un miroir déformant. Et donc, on retrouve, par exemple, je sais pas moi, le phénomène de financiarisation de l'économie qui explose au 20e, à partir des années 1990, il s'origine, justement, dans les années 1890, aux États-Unis, quand on invente une nouvelle formule qui s'appelle les produits dérivés, c'est-à-dire tout simplement l'idée de spéculer sur ce qui n'existe pas encore. En l'occurrence, c'était des céréales hein, dans le nord des États-Unis. Bon, on retrouve par exemple le terrorisme transnational. C'est pas nouveau. Ça apparaît là aussi à la fin du 19e siècle. Alors, ce sont des anarchistes qui en Europe vont s'organiser pour mettre en place des campagnes terroristes. En fait, c'est ce 19e, on retrouve tout un tas de choses, comme par exemple les frontières actuelles sur les 5 continents ont été largement définies pendant la période coloniale, donc tout au long de ce 19e siècle. L'ère d'extension des langues, hein, de la langue française, de la langue anglaise dans le monde aussi.
Oui, c'est à ce siècle-là que les continents sont connectés.
Exactement, c'est la première fois. C'est-à-dire que il y a des phases de la mondialisation au 15e siècle, il y a des phases de la mondialisation pendant l'époque ancienne, dans l'Antiquité, mais disons que la première véritable mondialisation massive, c'est-à-dire interconnexion des 5 continents, s'effectue au 19e siècle, et même précisément on peut la dater des années 1860, c'est la première fois où quasiment les cinq continents sont connectés par des câbles sous-marins et des télégraphes, qui fait que voilà, il y a une quasi instantanéité, parce qu'au début il faut quand même plusieurs heures, plusieurs jours pour que l'information transite par les télégraphes et les câbles. Hein. Donc on crée par exemple des faux directs pour commenter les matchs de cricket ou les matchs de foot à la fin du 19e, par télégraphe, ou à Londres, on va commenter un match de cricket australien en faux direct, en décalage. Bon, mais il n'empêche que c'est à partir des années 1860 que cette interconnexion du monde permet, oui, une véritable mondialisation de l'information, des savoirs, une mondialisation économique, etc.
Et d'autant que les nouvelles technologies naissent à ce siècle-là, radio, téléphone, voiture, avion, cinéma, vous dites tout sauf la télé et Internet finalement. Et donc en comprenant la genèse et en comprenant tout ce qui s'est passé au 19e siècle, on comprend parfaitement ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis il y a une perspective qui n'est pas qu'européenne, hein, vous voyez, c'est une perspective mondiale, c'est-à-dire vous expliquez par exemple que l'industrialisation, évidemment en tant qu'Européen on pense à la Grande-Bretagne, mais elle est véritablement vraiment né dans les Antilles, en Amérique latine.
Alors oui, c'est-à-dire que l'industrialisation, elle est, en fait, elle s'est quand même... Elle est apparue à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, mais ce qu'on explique, c'est une contribution de François Jarich qui montre bien que, en fait, les premières usines dites modernes ont été créées, fondées dans les Antilles, dans les plantations sucrières pour transformer le sucre, et notamment aussi en Amérique latine. Et donc, il montre bien que cette révolution industrielle, elle est multipolaire. Certes, elle est apparue d'abord en Grande-Bretagne, puis en France, en Belgique, et puis elle s'est développée dans le reste du monde tout au long du XIXe siècle. Mais il n'empêche que, par exemple, les premières usines modernes apparaissent en dehors de l'Europe.
Eh oui, dites donc. C'est tout ça, c'est dans l'ouvrage qui s'intitule « L'histoire du monde au XIXe siècle », co-dirigé par notre invité, Pierre Saint-Gravel. Je savais que j'allais répéter.
Ah,
Pierre Saint-Gravelou, avec Sylvain Vénère. C'est aux éditions Fayard. Quelle est la première source d'électricité au monde? C'est donc le charbon, cette énergie fossile responsable du réchauffement climatique. Alors, face à une Amérique qui encourage son utilisation avec Donald Trump, eh bien, 20 pays, là, à la COP23, viennent de créer une alliance pour sortir du charbon. Et tous ces 20 pays-là, ils ont fêté ça hier soir, hein, cette alliance. C'est parti.
Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois.
Et ce soir, voilà, je crois qu'on a compris le message. C'est Max Boublil, figurez-vous. Voilà. Alors, en finir avec le charbon, comme le propose cette alliance de 20 pays, dont la France notamment, il n'y a pas les pays d'Asie, vous qui êtes un spécialiste de l'Asie. En finir avec le charbon, là maintenant tout de suite, ça nous paraît évident aujourd'hui en France. Et c'est seulement en devenir, on voit que c'est très difficile et que l'Amérique est pro-charbon, pro-énergie fossile. Alors, est-ce que sortir du charbon, c'est vraiment le tournant historique ?
Sortir du charbon, oui, c'est un tournant historique. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction de Donald Trump, qui, alors lui, on le savait déjà, est plutôt, enfin même très climato-sceptique et qui est très influencé par des lobbies pro-charbon aux États-Unis. Et donc, il a décidé de mettre un terme au plan Obama de fermeture des centrales de charbon. Et le point de vue de Trump, lui, engage plutôt vers un retour au 19e siècle,
oui,
très franchement. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump ne croit pas du tout au réchauffement climatique, il l'a dit à plusieurs reprises, alors que en fait plusieurs historiens du climat, plusieurs scientifiques ont étudié ce réchauffement climatique et ont montré qu'il débutait précisément au milieu du 19e siècle. C'est ce qu'on appelle la fin du petit âge glaciaire, qui s'explique notamment par l'explosion de la consommation de charbon. À ce moment-là, on a parlé de la révolution industrielle tout à l'heure. Et donc, c'est ce charbon qui... Alors, justement, on a une entrée charbon dans cette histoire du monde
François Jarry,
au 19e siècle, exactement.
Et coup de bol, dites donc.
Bah oui, vous avez vraiment bien bossé pour une fois, je me suis dit... Bon,
justement, un article qui explique...
C'est bien foutu.
Qu'à la fin du 19e, il y avait ce qu'on appelle les smoky towns, et que ces villes qui utilisaient beaucoup le charbon, ça se voyait à l'œil nu, qu'il y avait des pluies noires qui tombaient sur le végétal.
Exactement, des pluies acides.
Des pluies acides sur le végétal.
Exactement. Donc ça, c'est à l'origine quand même d'une augmentation du taux de mortalité dans certains quartiers de Londres, par exemple, où se dégageaient ces fumées noires. Vous avez parlé des pluies acides, il y a tout un tas de pollutions comme ça, extrêmement évidemment nocives pour l'homme et l'environnement. Et puis il y a ce réchauffement climatique. Mais en même temps, ce charbon, c'est vraiment un symbole du 19e siècle parce que, en fait, il faut dire qu'en 1800, on consomme très peu de charbon. On consommait du charbon depuis très longtemps, mais très très peu. C'est-à-dire que c'est 3% de la consommation mondiale d'énergie en 1800. Et en 1900, c'est déjà 60% de la consommation mondiale d'énergie. Donc en fait, c'est cette consommation de charbon qui va permettre notamment à l'Europe et aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, de se développer très rapidement. C'est ce que les historiens dénomment à la suite d'un chercheur connu qui s'appelle Kenneth Pomerantz, la grande divergence. C'est précisément cet usage du charbon, d'abord par la Grande-Bretagne et ensuite par tous les pays occidentaux, qui permet ce décollage économique et aussi cette expansion de l'Europe et des États-Unis dans le monde, notamment sous la forme coloniale, mais pas seulement.
Pourquoi est-il objet capitaliste que le charbon, alors?
Disons que ce qui est intéressant, c'est que les autres pays du monde ne consomment pas de charbon au 19e siècle. Ça n'est qu'au 20e siècle. Et donc la Chine, aujourd'hui, qui est le premier pollueur mondial, consomme beaucoup de charbon.
Ils ont commencé plus tard, hein, c'est pour ça.
Exactement.
Et justement, le chapitre consacré au charbon, écrit par François Jarry, s'ouvre justement sur l'année 1851 à Londres et cette formidable opération marketing déjà de l'exposition universelle de Londres où un bloc de 24 tonnes de charbon est exposé. Et là, on comprend que le charbon à l'époque, c'est la high-tech, sauf que c'est la high-tech du 19e siècle. Et on a compris donc que Trump voulait y revenir et qu'en sortir était la véritable évolution. Pierre Saint-Garvelou. Ça y est, putain, je le tiens. Ça
wow.
y est. Enfin, je le tiens, votre nom. Bon, hein. est avec nous jusqu'à 18h. Juliette Arnaud, vous êtes penchée sur l'ouvrage « L'histoire du monde au 19e siècle ». Il y a 2-3 chapitres qui vous ont tapé dans l'œil ou comment ça marche?
Alors, un en particulier, ouais. parce que quand, Charline, dans votre grande magnanimité, vous m'avez suggéré de choisir une entrée seulement dans ce pavé énorme, par ses dimensions, par son nombre de pages, par son poids, 2,3 kg. Alors non, Madame Taupin, c'est l'auditrice type. Ce livre ne rentre pas dans votre poche de manteau. Oui, il est plus lourd qu'un pot de pâte à tartiner. Oui, vous pouvez, de manière plus spirituelle qu'avec un pot de pâte à tartiner, gavé d'huile de palme, et crabouiller les doigts de pied de votre époux ou de votre progéniture avec. Bref, quand vous m'avez suggéré une entrée seulement, j'ai soupiré de soulagement, sauf qu'ensuite, il a fallu la choisir, cette foutue entrée, et ce fut épique. J'ai hésité, choisi, renoncé, rechoisi, renoncé, parce que entre les noms de chapitres compliqués tels que Mission internationalisation du christianisme, interaction des croyances. Ou ce inquiétant de complexité, le premier congressionniste. Ou ce inquiétant tout court, la première pandémie de choléra, je perdais la tête. Et puis voilà qu'apparut tel Benoît, l'heureux élu, simple, chaleureux, évident, c'était le mien, le chapitre fauteuil. J'ai eu un premier mouvement un peu honteux. Je pensais à ma brève de comptoir préférée, chaise. C'est dans le dictionnaire, comme si on savait pas ce que c'était. Sauf que le fauteuil, eh ben c'est pas la chaise justement. Et il y a même le même écart majeur entre le fauteuil et la chaise qu'entre le 19e et le 18e siècle. Alors, vous résumez dans ce chapitre, le 18e siècle fut celui en gros des encyclopédistes, celui de Descartes, hein, l'avènement de l'homme pensant, et le 19e voit arriver l'homme sensible. Alors certes, les précieuses ridicules avec Molière avaient leur commodité de la conversation, hein, elles ne dissertaient pas debout. Certes, Madame Récamier, dans le tableau de David en 1800, femme d'esprit et de salon, est peinte à demi-couchée, sauf que c'est bon, ça va, j'ai des yeux pour voir, le sofa a l'air aussi confortable qu'un banc de métro dépecé pour empêcher le repos des SDF. Je ferme la parenthèse. Or, voici qu'en ce nouveau siècle, le 19e, le rond, l'idée du rond, l'emporte. Vous écrivez, et on se met à réfléchir à la souplesse de l'assise. On s'applique à tordre le bois pour qu'il corresponde aux arrondis de l'organisme. Le rocking chair des anglo-saxons n'est pas loin, alors on est à l'anguille dans un doux mouvement de balancier. On se berce soi-même comme un petit enfant, réfléchissant peut-être à ses origines, aux origines tout court, ou, vice suprême, le mien, on s'endort, mais au milieu des autres, puisque le fauteuil n'est pas forcément un meuble de chambre à coucher. Et c'est d'ailleurs curieux qu'en ce siècle des révolutions industrielles qui va instaurer le monde d'ouvriers, son travail dur, interminable, déshumanisant, le fauteuil et sa mollesse triomphent lui aussi durablement. Le 19e, c'est le siècle, entre autres bien sûr, de Marx, mais aussi celui de son gendre, Paul Lafargue, moins connu, journaliste, économiste, écrivain, socialiste, et qui dénonçait ça dans un livre qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Et le fauteuil, c'est l'équipement de base du paresseux, de celui ou celle qui chérit la paresse. Le droit à la paresse, il l'a écrit Paul Lafargue alors qu'il était en prison pour propagande révolutionnaire, parce que le monsieur a des occupations, hein. Et il écrit ça. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Et donc Lafargue de célébrer, lui, les sociétés primitives qui ne vantent pas la folie du travail ou les sociétés antiques. Les civilisations antiques célébrées au 18e, dans toutes les langues, par les Lumières. Hein, vous avez vu, la boucle est bouclée dans toute l'Europe. Et notamment par un monsieur nommé Gotthold Ephraim Lessing, qui a cette maxime heureuse qui est également dans l'ouvrage de Lafargue et qui disait « Paraissons en toutes choses, hormis en aimant et en buvant, hormis en paraissant ». Oui. Hormis en aimant et en buvant. Parfois, il nous semble que les gens, ils écrivent juste pour nous. Vous justifiez tout ou partie de notre existence. Merci, bisous, merci.
Merci beaucoup, Juliette Arnaud, qui s'est donc penchée sur cette entrée de l'ouvrage Le Fauteuil.
Qui s'est couché. Ouais.
Si les sociétés primitives, elles sont toujours primitives, c'est peut-être parce qu'elles n'en secouaient pas une aussi. Hein. Ah bah oui. Moi, j'ai écouté vos chroniques. Hein.
Retirez ça tout de suite. En tout cas, il y a plein d'entrées. Il y a notamment le règne de l'imprimé ou vers une uniformisation culturelle. Et puis toutes les entrées aussi par objet. Par exemple, le tatouage ou le thé sont des entrées pour...
Et l'opium.
Ouais, effectivement, pour appréhender le 19e siècle.
Je tiens à féliciter Juliette Arnaud parce qu'elle a considérablement enrichi la notice de Georges Igarello, qui est excellente, cette notice au demeurant, notamment avec l'usage de Paul Lafargue qui ne figure pas dans, dans la notice.
Sujet 2 avec vous, donc Barack Obama avait interdit l'importation des défenses d'éléphants. Donald Trump les autorise à nouveau. Décidément, Trump est un fan du 19e siècle. Trump, c'est un héritier de Roosevelt, hein, finalement, qui aimait la savane au point d'aller buter les éléphants.
N'est-ce pas délicieux de découvrir tous ces merveilleux quadrupèdes qui semblent tout droit sortis de la barque de Monsieur Noé, hein ? Madame la girafe ! Monsieur l'éléphant, Monsieur le tigre, je vous aime, je vous aime. Vous savez, à force de traquer le gibier, hein, il s'installe entre l'homme et la bête une sorte de complicité sourde, une émotion toujours nouvelle. Regarde, Jala, voilà une mère et ses petits. Oh mon Dieu, quel charmant tableau. Je m'en vais y mettre de la couleur.
Benoît Poulvorde et Monsieur Manhattan, bien sûr. Il y a un chapitre sur l'ivoire dans l'ouvrage, rédigé par Henri Médard. Et puis, il y a aussi un chapitre sur le bien-être animal. Hein. L'animal n'est pas un objet, de Damien Baldin. Alors, d'abord, la colonisation. Elle pourrit encore aujourd'hui nos relations et notre débat en France. Évidemment, c'est toujours très, très, très présent. Et on peut dire que c'est un peu l'ivoire qui a foutu la merde, finalement, si on reprend l'origine des choses au 19e siècle, le commerce de l'ivoire.
Oui. Alors justement, Henri Médard a une belle formule pour clore son chapitre sur l'ivoire. Il écrit, si je me souviens bien, « Le goût de Brahms a conduit les Européens à coloniser l'Afrique ». Alors le goût de Brahms, pourquoi ? Parce que en fait, les Européens, puis en fait les bourgeois de la planète, en réalité, hein, se prennent de passion pour le piano. Et donc ils abandonnent le clavecin, par exemple, qui prédominait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et donc pour faire un piano, il faut de l'ivoire pour les touches de piano notamment. Alors il faut aussi de l'ivoire pour les peignes, pour les boules de billard. Le billard se démocratise aussi au XIXe siècle.
Mais là, il n'y a rien de plus solide.
Pour les couteaux.
C'est-à-dire avant l'invention du plastique, c'est pas possible de faire autrement qu'avec l'ivoire.
Exactement. Et puis pas n'importe quel ivoire. L'ivoire plutôt des éléphants d'Afrique, qui est plus souple, plus malléable, qu'on peut vraiment travailler. Contrairement à l'ivoire des éléphants d'Asie. Et donc c'est notamment ce goût pour le piano qui devient une espèce de caractéristique du mode de vie bourgeois, mais jusqu'au Japon, hein. C'est-à-dire qu'à partir de 1880, dans les écoles normales au Japon, l'enseignement du piano est obligatoire. Ça explique pourquoi, encore aujourd'hui, hein, le Japon est sans doute un des premiers producteurs de piano au monde.
Et ce goût bourgeois se démocratise et
ce goût bourgeois se démocratise. Et c'est précisément avec l'accroissement des classes moyennes qu'il y a une nouvelle demande d'ivoire, vraiment à partir du début du 19e siècle. Et cette demande d'ivoire va déstabiliser en fait les sociétés, un grand nombre de sociétés africaines, fragiliser les royaumes africains, notamment en étant à l'origine avec le trafic aussi des captifs, des hommes et des femmes, de la diffusion massive d'armes dans les sociétés africaines. Et donc tout cela va donc préparer la colonisation en fragilisant les sociétés locales, colonisation européenne à partir de 1880.
Et c'est là où Trump veut revenir alors ? Puisque maintenant il autorise l'importation des défenses des éléphants du Zimbabwe.
C'est ça. Alors Trump, il subit. C'est un petit peu la même histoire que pour le charbon finalement. Hein. C'est-à-dire qu'il subit l'influence de lobby, en l'occurrence le lobby pro-chasse aux États-Unis. Et puis manifestement, moi je suis pas spécialiste, mais apparemment ses enfants, certains de ses enfants pratiqueraient ce sport entre guillemets. Et donc l'aurait beaucoup influencé. Alors, lui-même s'est fait prendre en photo avec une trompe d'éléphant. Et donc, comme vous l'avez si bien rappelé...
Et un renard mort sur la tête aussi régulièrement.
Oui, quasi quotidiennement, c'est étonnant. Oui. Et donc, vous rappeliez cet antécédent de Theodore Roosevelt en 1906-1907, hein, où il avait effectué plusieurs safaris comme
ça en Afrique. Il faut qu'ils se détendent, Pierre, enfin, évidemment. Ils ont besoin de se détendre, ces gens-là. Mmh. Voilà, c'est comme Giscard qui allait chasser. Bon, bah, il a besoin de se détendre. Ils ont des responsabilités. Je me fais l'avocat du diable parce que, bon, alors là, on en serait pour le bien-être animal. Et c'est vrai que vous rappelez aussi, hein, dans l'ouvrage, que le bien-être animal est né au 19e siècle. Et le 19e siècle nous explique beaucoup de choses.
Ce qui est bon, c'est qu'il y a un éléphant qui passe à Manhattan, paf, on peut y aller.
C'est uniquement l'import du Zimbabwe. Et lui, il vient d'entrer dans le Nouveau Monde.
Il est Frédéric Fromet. De quoi allez-vous nous chanter ?
Mais en ce jour de clôture de la COP23, j'ai un message pour Emmanuel Macron.
Message que j'espère pas trop croquignolesque. Président des riches, c'est ce qu'on te dit, digui, 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 digui. Alors qu'on bousille la terre, le climat, pourquoi ne deviens-tu pas président des ruches? Si t'es pas sensible au déclin des abeilles, pense au moins à un patron comme Xavier Miel. Je sais bien que parmi les abeilles, il y a des ouvrières sans doute illettrées, mais il y a aussi des reines premières de cordée. La petite abeille a bossé très dur pour se payer un costard à rayures. Elle ne fout jamais le bordel, sauf si quelqu'un l'emmerde. Une abeille peut butiner quelques 3000 fleurs par jour, c'est pas une fainéante. Une ruche dans ton charabia est une start-up nation. Président des ruches. Toi qui te la pètes en Jupiter, pense aux abeilles et à la terre. Président des ruches. Pour toi, ce serait tout bénéfice, l'occasion de dire que nous sommes pro-polis. Plutôt que le journal Les Échos et le système, protéger l'écosystème, bannir les néonicotinoïdes, toutes ces merdes morbides. Fais-le au moins pour Frédéric Dard, pour Didier Bourdon, pour Brigitte et Séguépierre. Fais-le aussi pour les fémènes qui ont les seins à l'air. Fais-le au moins pour les amoureux qui seront privés de lune de miel. Je parie qu'il y a déjà des abeilles allergiques au pollen. Président des ruches. Pour sauver nos butineuses préférées, mieux vaut nectar que jamais. Président des ruches. Vite, vite, il faut que tu t'y colles. Que deviendrions-nous sans la picole?
Et voilà, bah, à chaque fois c'est pareil.
C'est fini.
Bah, quand il y a presque 18h, bah, il faut rendre l'antenne. Voilà. Et ça, je veux te dire, ça va changer quand on va reprendre la présidence de Radio France, hein, moi je vous le dis.
Hein. Ça va être quelque chose.
Parce que sinon demain, ça va être pareil, il faudra rentrer à 18h.
Oui.
Il y a un moment, il faut prendre les choses en main.
C'est voilà. Vrai,
bon, demain, deux invités, Bounaïmin, alias Chinois Marrant, et Perrine Desproges.
Gros programme.
À demain.